Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Le comité laïque de coordination contre la prorogation du mandat des forces de l'EAC, dont le mandat a expiré depuis le 31 mars. Cette structure des chrétiens catholiques du Nord Kivu met le président Félix Tshisekedi Tshilombo devant ses responsabilités. Inhumation hier de 15 Congolais et Zambiens victimes du naufrage survenu sur le lac Mwero à Kachobwe dans le territoire de Kasenga. À la base d'une rame, selon l'administrateur du territoire, la surcharge et le mauvais temps. Notre invité, c'est le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kavumu au Sud Kivu, Jean-Baptiste Yumba Kalonda, salue la construction d'un cachot pour la détention provisoire des prévenus dans cette localité du territoire de Kabaré, un projet financé par la MONUSCO. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, mise en onde de Polydor Basunga. Le comité laïque de coordination s'oppose à la prorogation du mandat des forces de l'EAC, cette structure des chrétiens catholiques du Nord Kivu, l'a fait savoir dans une correspondance adressée au gouverneur. Le coordonnateur du CLC rappelle que le mandat de la force régionale de l'EAC a expiré depuis le 31 mars. Jackson Kitambala, qui formule des recommandations au président de la République et au ministre de la Défense nationale, s'interroge sur quelle base juridique l'EAC se maintient sur le sol congolais. Il est au micro de Denise Lukesso.
Limiter les activités des forces régionales de l'EAC au Nord Kivu jusqu'à ce qu'un mandat clair et précis sera adopté. Deuxièmement, aucune prorogation ne doit être acceptée si ce mandat n'est pas offensif et clair. Parce que des mandats flous parviennent toujours à nous mettre dans une situation de confusion. Troisièmement, le déploiement des FARDC dans les zones abandonnées par l'M23 doit être clairement énoncé dans le mandat. Quatrièmement, aucune négociation politique spécifique ou spéciale avec le M23 ne sera toléré. Cinquièmement, nous demandons à ce qu'il y ait une enquête mixte, gouvernement et à ces Nations Unies et forces vives de la société civile pour vérifier si réellement tous les éléments du M23 sont identifiés parce qu'on a peur que ces gens-là s'infiltrent dans la population. Et enfin, les consultations préalables du Parlement et des forces vives de la société civile doivent être une priorité avant toute éventuelle prorogation.
Notez que toutes nos tentatives pour avoir la réaction du porte-parole du gouvernement congolais à Kinshasa n'ont pas abouti ce week-end. Nord Kivu, encore plus de 230 cas d'incursions nocturnes ont été répertoriés en l'espace de mois dans la commune de Moulekera à Beni. Ce chiffre ressort d'un monitoring fait par le conseil communal. Dans une déclaration faite à la presse ce samedi, cette structure citoyenne réaffirme son soutien aux efforts consentis par les autorités à travers la surveillance communautaire pour mettre fin à l'insécurité dans la région. Radio Okapi Beni, Guylaine Kassassia.
Sur les 10 quartiers que compte cette commune de la ville de Beni, s'y sont été victimes de plus de 230 incursions nocturnes au total et en l'espace de quelques jours seulement. Parmi les quartiers les plus touchés, il y a ceux de Tamende avec plus de 45 cas et de Massiani avec plus de 60 incursions nocturnes. Partout, les bandits ont emporté plusieurs biens de valeur, des sommes d'argent et blessé plusieurs civils, peut-on lire dans cette déclaration. Cette situation serait consécutive à la présence de sept bandits qui étaient détenus à la prison de Kangwai et qui auraient été relâché par la justice, poursuit le même document. Cette structure dit par ailleurs regretter que les forces de l'ordre ne collaborent pas avec ses membres qui s'organisent en groupe de vigilance comme le chef de l'État l'a pourtant autorisé. Face à cette situation, le conseil communal de Moulekera formule quelques recommandations, comme l'a dit ici son rapporteur Paluku Mukama Kamabu.
Au conseil urbain de sécurité, de mettre toutes les batteries en marche pour restaurer la paix dans la ville de Beni et plus particulièrement dans la communauté commune de Mulekera. À la peine, c'est de renforcer le mariage civilo-militaire.
Il recommande également à la jeunesse de continuer de s'organiser en groupe de vigilance pour barrer la route aux semeurs de troubles nocturnes, continuer avec l'opération Surveille aux voisins. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Capri.
Non loin de là, en Ituri, les musulmans de Komanda ont achevé hier vendredi le ramadan. Pour l'occasion, le prédicateur du jour a exhorté les fidèles à élever leur prière à Allah afin que la région recouvre la paix et la cohésion sociale. Pour en parler, retrouvons à Bounia Ezekiel Mouzalia.
Dans un modeste bâtiment situé en plein centre de Komanda, face au monument Kemanda et qui sert de mosquée, des fidèles musulmans un peu à l'étroit écoutent avec une grande attention la prédication. Beaucoup sont vêtus en blanc et récitent silencieusement des prières chapelées à la main. En ces jours des célébrations de la fête et du ramadan et dans un contexte sécuritaire difficile dans les territoires d'Irumu, la paix était au centre du message. Atibou Bin Mustafa, représentant régional de la région islamique d'Irumu à Komanda.
Ce pays se traverse une insécurité. Notre contribution était de faire le rappel aux musulmans de bien vouloir prier pour notre pays, que la paix se rétablisse comme il était.
Aucun incident n'a été enregistré à Komanda pendant cette fête. S'est réjoui Assoumani, fidèle venu prier avec son fils de 3 ans. Il estime que les efforts doivent se poursuivre de façon permanente à travers le comportement de chaque musulman pour une paix durable et la cohésion sociale dont a parlé l'imam du jour.
Le message que l'imam a donné, c'était juste pérenniser la paix, pas seulement pendant cette période de ramadan, mais tout au long de leur vie, qu'on puisse voir effectivement qu'il y a la paix, il faut que ça soit pérennisé.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis au Maniema, l'Union des radios communautaires et associatives s'est dit préoccupée vivement par l'insécurité qui prévaut ces jours-ci dans la ville de Kindu. Illustration, le coordonnateur de cette structure et journaliste Kassimou Bin Moussa a été visité à son domicile par des hommes armés non identifiés hier à 1h du matin. Ces malfrats lui ont tiré 2 balles aux jambes. Le chargé des programmes de la corporation met les autorités devant leurs responsabilités. Chadrak Tamboué Londé s'est confié à Florence Kizalunga.
Ayant résisté pendant plus de 40 minutes avant leur intrusion dans la maison, ces bandits lui ont tiré à bout portant 2 balles aux jambes et ont emporté des téléphones portables, des habits et une importante somme d'argent. Pour l'instant, Kassimou Bin Moussa est interné dans une structure médicale de la place où il reçoit des soins appropriés. L'URCAM rappelle que c'est la 3e fois en l'espace de 2 ans que son coordonnateur est visité par des personnes porteuses d'armes à feu. 2 autres professionnels des médias communautaires et associatifs ont été visités durant la même période par des personnes non identifiées porteuses d'armes à feu. Nous ne savons pas si tous ces actes ont un lien ou sont des faits d'hasard, mais nous craignons au sein de l'URCAM qu'il s'agisse d'actions ciblées dont l'objectif serait de faire taire les médias communautaires et associatifs du Maniema. À plusieurs reprises, ultime recours et porte-voix des communautés locales dans la province du Maniema. L'URCAM condamne avec la dernière énergie cette 1e attaque contre son coordonnateur et appelle les services de sécurité ainsi que les autorités compétentes à assurer la protection des professionnels des médias pour qu'ils continuent à faire leur travail d'informer la population en toute quiétude.
Dans un autre chapitre, les victimes du naufrage survenu sous le lac Mouero le 17 avril dernier ont été enterrées hier vendredi après-midi à Kachobwe dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. Parmi les 15 victimes, il y avait des Congolais et des Zambiens. À la base du drame, selon l'administrateur du territoire, la surcharge et le mauvais temps. Le récit de Jean Ganduka Bongo.
La barquette partait du village Kituma Kinsamba en Zambie à destination de Kawama en RDC. Elle transportait 33 passagers parmi lesquels les hommes et les femmes. C'est en plein voyage qu'elle a chaviré, non loin du village de Nkolé, secoué par un vent violent, renseigne l'administrateur du territoire de Kasenga. Après l'accident, sur les 33 passagers, il y a eu 15 morts et 18 rescapés. 5 de 15 victimes ont été enterrées en Zambie à cause notamment de la décomposition de leurs corps. De 10 autres corps repêchés des eaux et gardés au village Kanyembo en Zambie, 2 sont des ressortissants zambiens. Ils ont été inhumés dans leur pays. Sur les 8 autres victimes, 7 sont les habitants de Kachobwe dans les secteurs de Luapula, territoire de Kasenga, et le 8e est ressortissant de Kilwa dans les territoires de Pweto. Son corps a été ramené dans son village où il a été enterré. Notons que parmi les victimes, la plupart sont les membres d'une église située à Kawama. Ils étaient partis en Zambie consoler leur pasteur qui avait perdu son épouse, et c'est en regagnant leur village que le pire s'est produit. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
On enchaîne avec la présentation hier à Bukavu du premier lot des boissons fortement alcoolisées saisies par la commission interservice de la police nationale congolaise. C'est suite à l'arrêté du ministre national de l'industrie interdisant formellement l'importation des boissons fortement alcoolisées prohibées en RDC. À Bukavu, c'est une correspondance de Rachel Kessemangou.
Il s'agit de produits fortement alcoolisés, importés ou locaux, contenant plus de 45% d'alcool détenus dans des boutiques Inganda de Bukavu. Des produits causant des graves préjudices sur la santé des populations et des conséquences négatives sur la sécurité publique. C'est dans ce cadre que le commissariat de la police du Sud Kivu, en collaboration avec tous les services spécialisés dans la matière, une équipe mixte a été mise en place pour traquer et perquisitionner ces boissons. Général Jean-Bernard Bazengue, commissaire provincial de la PNC Sud Kivu.
Nous allons mettre en application toutes les résolutions prises par le Conseil provincial de sécurité, puisque celui-ci ne fait que exécuter les instructions de la haute hiérarchie par rapport à ces boissons fortement alcoolisées qui détruisent nos populations. Et j'en appelle surtout à notre jeunesse pour éviter la consommation de ces boissons, puisque cela peut nuire à leur santé. Évidemment, j'ai été appelé à solliciter l'intervention de l'auditeur supérieure militaire pour que la procédure soit engagée afin que nous puissions passer à l'étape de la destruction de ces boissons.
La PNC Sud Kivu a donc promis de poursuivre ses opérations pour traquer ces boissons fortement alcoolisées. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Revenons un instant ici à Kinshasa où le corps national des professionnels de santé communautaire a reçu ce samedi le serment des 70 récipiendaires. À l'instar de leurs aînés, ils ont la mission de la promotion sanitaire, la prévention des maladies et la réhabilitation ou la réinsertion sociale. Depuis l'année académique 2007-2008, la RDC a produit ses premiers professionnels en santé communautaire orientés en épidémiologie, en santé publique et financement des systèmes de santé. Explication de Billy Van Lutumba.
Les professionnels en santé communautaire, informe Lydie Coco Kasago, présidente du corps national, sont estimés à ce jour à 15 000 à travers la RDC. Ce corps est créé depuis 2009. Quelques soucis pèsent encore sur ce corps, comme le dévoile sa présidente.
On ne peut pas planifier des projets de santé, on ne peut pas organiser des activités de santé sans impliquer la population. Donc, le professionnel en santé communautaire va travailler dans l'éducation sanitaire, va travailler dans la communication pour générer la demande de la population et son engagement dans tout ce que le gouvernement peut planifier.
Patrice Opélé, comme récipiendaire, formule quelques recommandations face à ces pesanteurs.
Nous demandons aux autorités de pouvoir catégoriser officiellement cette formation qui est un maillon qui manque dans la chaîne de toutes les informations sanitaires de notre pays. Car sans la communauté, eh bien, il n'y a pas raison de la santé, il n'y a pas raison de l'hôpital. Ici, nous faisons allusion au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au secrétaire général à la Santé publique, Hygiène et Prévention.
Signalons que le corps national des professionnels en santé communautaire réunit les personnes ayant suivi une formation et obtenu un diplôme de niveau supérieur et universitaire en santé communautaire, santé publique et épidémiologie requis pour jouir du droit d'exercer légalement la profession.
Merci Billy Ivan Lutumba pour ces précisions. Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir. Une trentaine de jeunes a été sensibilisés hier vendredi par l'ONG Enfants à venir sur les mécanismes de protection contre l'exploitation et l'abus sexuel. Le coordonnateur de la structure a exhorté à l'occasion les jeunes filles et garçons à s'abstenir des relations sexuelles avant le mariage. Il a fait remarquer que des relations non protégées conduisent généralement aux grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissible. Maître Pierre Bibombe le dit à Blaise Ndongala Mayanda.
Notre objectif, c'est d'encadrer ces jeunes pour les former afin qu'ils deviennent de pères éducateurs que nous allons utiliser dans les actions de sensibilisation communautaire. Nous allons aller dans les communes un peu éloignées du centre-ville de Kinshasa, comme Maluku, Kibanseke, Massina, où il y a des jeunes qui ont des grossesses non désirées. Il y a même des enfants issus des viols qui sont abandonnés, qui constituent aujourd'hui le phénomène Kuluna, parce que ce sont des enfants abandonnés qui n'ont pas été encadrés, que ce soit par leurs parents ou par la communauté ou par l'État lui-même. Il y a aussi un rôle majeur dans l'encadrement de la jeunesse. C'est pourquoi nous devrions inviter l'État à définir une politique politique claire d'encadrement de la jeunesse pour que cette jeunesse ne soit pas manipulée aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan social. Dans les échanges, les jeunes ont dénoncé que l'impunité constitue aujourd'hui un autre facteur favorisant les violences basées sur les genres. Comment expliquer qu'on peut arrêter un auteur de violences sexuelles? Après, il est relaxé des jours plus tard parce qu'il a payé une caution consistante en justice.
Notez que cette ONG a encouragé également les victimes des violences basées sur le genre à appeler au numéro vert 495-555 pour dénoncer au plus vite leur bourreau et bénéficier de la prise en charge des structures spécialisées.
Actualité internationale.
Au Soudan, le conflit armé est entré aujourd'hui dans sa deuxième semaine. Le dernier bilan des affrontements dressé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait état de 413 morts et plus de 3500 blessés. Pour la troisième fois consécutive depuis le début des combats, le 15 avril, la trêve a de nouveau volé en éclats aujourd'hui. Des Saoudiens et des ressortissants d'autres pays évacués du Soudan sont arrivés ce samedi après-midi à Jeddah, une ville portuaire d'Arabie Saoudite. Il s'agit d'un premier navire qui a évacué des Soudanais, 50 Saoudiens et d'autres ressortissants des pays amis. Au Mali, pendant ces temps, trois fortes déflagrations ont été entendues tôt ce matin, non loin d'un camp militaire de Sévaré, au centre du pays. De nombreux habitants de la zone sont restés terrés chez eux. Des présumés djihadistes ont tenté à l'occasion d'attaquer ce camp militaire situé non loin de l'aéroport. Sur place, la situation est toujours confuse et pour le moment, il n'y a pas de bilan disponible. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé ce samedi après-midi l'expulsion d'une vingtaine de diplomates allemands en représailles, selon lui, à une mesure similaire prise par Berlin. En revanche, l'Allemagne n'a pas confirmé l'expulsion des diplomates russes, indiquant tout simplement avoir été en contact avec Moscou ces dernières semaines sur les questions liées au personnel diplomatique.
L'invité.
Notre invité, c'est le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kavumu, Sud-Kivu. Jean-Baptiste Yumba Kalonda se déclare soulagé par la construction d'un cachot pour la détention provisoire des prévenus dans cette localité du territoire de Kabaré, située à plus ou moins 25 km de Bukavu, un projet financé par la MONUSCO. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kavumu, Yumba Kalonda Musoya. Bonjour.
Bonjour.
La construction d'un cachot par le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ici au parc de Kavumu, ça vient répondre à quel besoin?
La construction du cachot au niveau du parquet de grande instance de Kavumu vient répondre à un besoin réel, un besoin de détention provisoire. Nous avons un petit local qui avait été transformé en cachot, mais qui ne répondait pas aux réalités par rapport à la criminalité dans notre ressort. Et donc, la construction de ce cachot vient résoudre ces problèmes. Et parce que ce cachot, selon le plan qui nous a été présenté, va devoir répondre aux standards, c'est-à-dire un endroit pour garder les hommes, les femmes ainsi que les enfants.
Avant la construction de ces cachots dont les travaux démarrent aujourd'hui, comment les détenus étaient-ils gardés?
Ils étaient gardés, certains, au couloir pratiquement, mais on faisait en sorte que si on se rend compte que le nombre déborde, on les acheminait rapidement à la prison de Bukavu, là où jusqu'à ce jour nous continuons à garder nos détenus.
Pour gérer une entité aussi vaste, trois territoires, Calais, Kabare et Idui, est-ce que ce cachot qui va être construit va servir efficacement?
Oui, nous avons aussi par moment un avantage du fait que et à Idui et à Calais, il y a des prisons, des endroits où les collègues qui sont au niveau du parquet près les tribunaux de paix gardent leurs détenus, de sorte que généralement, quand ils doivent transmettre les dossiers, ils les transmettent ici sans accompagner de prévenus. Le prévenu est directement dirigé vers la prison. Ce qui nous aide d'ailleurs à ne pas avoir un grand nombre de détenus sur place. Mais les dossiers physiques arrivent à notre niveau et nous continuons la procédure.
Durant combien de temps un détenu pourrait-il être gardé au cachot?
Au cachot, généralement, c'est 5 jours selon la loi qui répond au délai de mandat d'arrêt provisoire. Mais il arrive qu'on dépasse par manque de moyens de transport. Parce que nous devons nous débattre pour trouver des moyens de transport nous permettant d'acheminer les détenus à la prison, étant donné que les chambres du conseil, c'est-à-dire des juges qui traitent de la prolongation de la détention, se tiennent à la prison. Ce qui fait que nous sommes obligés, en ayant 5 jours, de les acheminer pour les présenter devant les juges.
Le ministère de la Justice vous appuie-t-il ou vous comptez uniquement sur le partenaire?
Je crois que dans le programme du gouvernement, il y a des choses qui sont prévues pour l'amélioration des conditions de travail. Et nous pensons que ce qui traîne peut-être, c'est la mise en œuvre de tout ce qu'il y a comme plan, de tout ce qu'il y a comme projet par rapport à l'amélioration, à la construction des bâtiments. Notre vœu est que le gouvernement puisse faire en sorte que tout ce qui est prévu, tout ce qui est au programme puisse être mis en œuvre pour permettre à la justice, surtout dans la province du Sud Kivu, à pouvoir fonctionner comme il se doit et être à même de concourir à la bonne administration de la justice.
Y a-t-il d'autres défis auxquels le parquet de Kavumu fait face?
Oui, il y a plusieurs défis, parmi lesquels le manque de moyens de transport pour acheminer les détenus à la prison, le manque de moyens de transport pour faire l'itinérance de notre ressort, l'absence des bureaux des magistrats, parce qu'il n'y en a que des locaux prévus pour les magistrats, l'absence des bureaux de la police qui est détachée au parquet, l'insuffisance même de bureaux par rapport au secrétariat, à l'administration. Et tout cela, ce sont des défis qui ne permettent pas parfois de travailler dans des conditions adéquates.
Justement, c'était ça la question. Comment parvenez-vous à rendre la justice équitablement dans des conditions qui ne sont pas du tout réunies au regard de ces tableaux sombres que vous venez de peindre?
Par exemple, par rapport aux magistrats, il n'y a que 2 au parquet de grande instance. Nous faisons avec les moyens de bord. Nous essayons avec les moyens qui sont en notre présence de faire le meilleur de nous-mêmes.
Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Kavumu, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Jean-Baptiste Yumba Kalunda était interviewé à Kavumu par Jean Kassami. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Alain Rongomouchige qui m'a accompagné.